Oscar Huguenin. Nos vieilles gens. L'apprenti tailleur. Chapitre 3. Au bruit que je fis en tâtonnant dans la petite cuisine obscure et en trébuchant sur un seau vide, le vieux Soubise cria de sa voix de stentor :
Qui vive ? Crémile Gargousse ! Est-ce toi, Clampin, avec ton lait, à la fin du compte ? As-tu bientôt fini de saccager mon fourniment ? Nom d'une grenade !
Guidé par la voix tonnante du vieux soldat, je trouvai enfin la porte et entrai. Voilà votre lait, monsieur Soub, monsieur Gentil. Et j'ajoutai aussitôt, pour entamer ma négociation. Seulement, vous savez, demain je ne passe pas par ici. Si je demeurais plus près, comment allez-vous faire ? Encore qu'il est venu une tapée de neige. Un bon pied, pour le moins. C'était une légère entorse à la vérité. J'exagérais pour les besoins de ma cause.
Crémile Millas !
Le juron du père Soubise finit en une sorte de gémissement, et il porta à ses jambes, recouvertes d'une peau de mouton, ses mains noueuses et ridées.
Les jambes vous font terriblement mal, et vous ne pouvez pas marcher ?
Demandai-je avec une compassion véritable, mais où il entrait cependant un certain calcul pour le succès de mon plan.
Marcher ! Je voudrais t'y voir, toi, nom d'une bombe. Marcher, avec des genoux aussi gros que ma tête, où on jurerait qu'un escadron de guêpes s'amuse à planter ses aiguillons. Marcher, corne du...
Je me hâtai de l'interrompre.
Il vous faudrait quelqu'un pour faire vos commissions, tenir votre ménage.
Le vieillard fronça furieusement les sourcils et fit la grimace.
Oui, grommela-t-il d'un ton bourru. Une donzelle qui me volerait et qui n'en ferait qu'à sa tête. Rien de ça. La peste soit des cotillons. Je connais l'engeance. Demi-tour, cadet. Par le front droit, marche.
Mais, fis-je vivement, ce n'est pas une servante que je voulais dire. C'est un garçon approchant de mon âge, qui ne sait que devenir, qui risque de geler si on ne le ramasse pas.
Le vieux Soubise releva la tête et me dévisagea d'un regard méfiant.
Un rôdeur, quoi. Un hématlose. Un tire-sou.
Ah ça, Clampin, est-ce que tu prends ma cassine pour une boutique d'enfants trouvés ?
Enfin, répliquai-je assez vexé et faisant mine de tourner les talons, puisque vous pouvez faire seul, tant mieux. À vous revoir.
Halte, fixe, demi-tour,
tonna le vieux soldat.
Et où le prends-tu, cette espèce d'hématlose ? Dis.
Il est devant la maison. C'est l'apprenti de Bloom, le tailleur.
Son maître l'a abîmé de coups.
Peuh ! Le galopin ne les avait pas volés, sûrement.
Il avait voulu défendre sa mère, répliquai-je avec chaleur. Le tailleur en disait pique-pendre. Moi, j'en aurais fait autant qu'André, et si j'avais été assez fort, j'aurais flanqué une raclée à Bloom pour lui apprendre. J'ai pensé tout de suite que, comme il vous fallait quelqu'un et que l'apprenti ne savait où aller, mais... Je vais le mener chez nous.
Va le chercher, dit le père Soubise d'un ton tout différent. Ah, mais à propos,
se ravisa-t-il,
ce n'est pourtant pas un Allemand.
Non, soyez tranquille, il s'appelle André Pernoud.
À la bonne heure, marche.
Tout heureux du succès de ma négociation, je courus appeler l'apprenti en me disant :
On voit qu'il s'est battu des années contre les Allemands, le vieux Soubise, il ne peut pas les sentir.
André m'attendait patiemment, abrité sous l'avant-toit.
« Viens, lui dis-je à l'oreille en l'attirant dans la maison. Le père Soubise, c'est-à-dire non, ne va pas, au moins, lui dire comme ça. Monsieur Gentil veut te prendre pour lui aider à faire son ménage.
Ça se rencontre le mieux du monde. Il crie un peu, sans doute, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un vilain merle comme ton Bloom.
Pourvu que tu marches au commandement, tout ira bien. »
Je rentrai avec mon protégé. Le vieux soldat inspecta de la tête aux pieds sa nouvelle recrue, qui n'avait pas l'air à son aise, et de son ton le plus sévère.
« Ah ça, conscrit, il paraît que tu as déserté !»
L'apprenti releva la tête.
« Non, répliqua-t-il vivement, c'est mon maître qui m'a poussé dehors. Mais, ajouta-t-il d'un air vindicatif. « Il ne l'aurait pas fait que je serais parti quand même. Il insultait ma mère. Je l'ai défendu.
Hé, corbleu, tu as bien fait, mon petit coq. Pour le quart d'heure, je t'enrôle pour faire mon fricot, astiquer mon fourniment, etc. Mon ordonnance, quoi. Conséquemment, tu auras l'ordinaire et le logis. Pour ce qui est de l'équipement et de la solde, ça dépendra du service. Demi-tour, droite, rompé, à la cantine, marche. »
André n'avait pas l'esprit lourd et il avait été dressé à obéir. Il prit le pot de lait, demanda où on tenait le briquet et l'amadou pour allumer le feu et s'en fut à la cuisine commencer son nouveau service pendant que je prenais congé du père Soubise.
À vous revoir, monsieur Gentil, bien obligé pour André. Il s'agit de me sauver à présent. On va me trouver terriblement lambin par chez nous.
Le vieux soldat me tendit sa grosse main aux jointures rugueuses et me secoua rudement le poignet.
« Bast, quand tu auras fait ton rapport, cadet, tu n'as qu'à dire que, primo, c'est la faute à mon sacré rhumatisme des Flandres, et secondo, c'est la Blum, ce gueux d'allemand. Demi-tour, marche !»
Dans la petite cuisine, André surveillait la cuisson de son lait, qu'il avait versé dans une poêle à haute jambe et à longue queue, et entretenait le feu de branches sèches qui flambaient dans l'âtre. Mais ce n'était pas cette gaie illumination seule, à coup sûr, qui donnait à la pauvre figure blême de l'apprenti tailleur cet air serein et reposé, si différent de son expression morne de tout à l'heure. Il se redressa pour me remercier. « Sans toi, vois-tu » fit-il d'un ton pénétré. « On m'aurait trouvé demain matin, raide comme un glaçon, derrière une porte de grange. » « On se reverra. Je devrais déjà être à la maison, » lui dis-je en me hâtant de m'en aller. Le fait est qu'il y avait près d'une heure que j'étais partie de la maison et qu'on devait s'étonner de ma longue absence. Avec cela, ma commission n'était pas même faite. Qu'allait dire ma mère, elle qui tenait tant à son idée de nous faire habiller par Blum? Retournerais-je chez le tailleur pour m'acquitter de mon message?
« Ma fille, non. » me dis-je avec répugnance. Ce soir, je ne pourrai plus parler à cet être.
D'ailleurs, quand on saura chez nous quel schnappant c'est, on ne voudra pas lui donner de l'ouvrage. En raisonnant ainsi, je m'avançais beaucoup. Ma mère était tenace dans ses idées. À mon vif désappointement, elle ne fut pas impressionnée par mon récit, au point de renoncer à son rêve de nous voir habillés, mon père et moi, à la mode du jour. Et même, tandis que son mari et sa sœur s'indignaient de la brutalité du maître tailleur, ma mère hochait la tête de façon à faire entendre que, si elle ne mettait pas en doute ma véracité, elle se méfiait de celle de l'apprenti ou de sa façon de présenter les choses. C'est bien ce qu'elle finit par dire. Que Blum ait été un peu rude avec ce garçon, c'est bien possible. Mais en fin de compte, nous ne savons pas tout, ni comment les choses se sont emmanchées. Un mot en amène un autre. Dieu sait comment l'apprenti a répondu quand son maître lui a trouvé à redire pour avoir brisé cette assiette. Ces garnements d'apprenti, c'est des raisonneurs à n'en pas finir.
« Ça n'empêche, » fis-je avec chaleur, « que Blum n'avait pas besoin... »
Mon père me fit signe de me taire et présenta avec plus de calme le plaidoyer que je voulais entamer.
« Tout de même, Henriette, on dira ce qu'on voudra. » Mais pour aller dire à un enfant du mal de sa mère, il ne faut pas valoir grand-chose, tu en conviendras. Et si André a répondu à Blum qu'il en avait menti, je ne peux pas lui en savoir mauvais gré.
Non, sans doute, concéda ma mère. Je suis comme toi. Mais tout ça n'a rien à voir avec vos habits. Et puisque Charles-Auguste n'a pas fait sa commission ce soir, il ira la faire demain matin. Je regardai mon père. Est-ce qu'il n'allait pas dire « Eh bien, moi, je suis d'avis qu'on n'ait rien à démêler avec cet estafier de Blum. » Mais je fus déçu dans mon espoir. Mon père ne souffla mot et continua d'avaler son lait sans répondre à mon regard piteux. J'étais bien persuadée qu'il n'était pas du même avis que ma mère, mais il ne voulait sans doute pas la contredire en ma présence et favoriser ainsi l'esprit de révolte qu'il devinait en moi. Le fait est que j'étais terriblement vexée et prêt à lâcher quelques sottises. Ce fut ma tante Julie qui me sauva de ce danger. « Le principal, » dit-elle doucement, « c'est que ce pauvre garçon ne couche pas dehors. Quelle bonne idée tu as pourtant eue, Charles-Auguste, de le caser chez le vieux gentil. Ça rend service aux deux.
C'est bien ce que j'ai pensé, fis-je d'un air entendu.
Mais ma mère se chargea sur le champ d'administrer une douche salutaire à mon amour-propre, en disant avec un hochement de tête « Reste à savoir ce que la chambre de charité va dire de tout ça, parce qu'en fin de compte, qui est-ce qui a mis André Pernoud en apprentissage chez le tailleur, si ce n'est pas ces messieurs ?»
J'allais m'exclamer « Mais puisque Blum l'avait poussé dehors !»
Mon père me prévint et dit tranquillement « Nous verrons ça. J'en suis de la chambre de charité. Demain, j'irai trouver le greffier, qui est président, et on enquêtera pour savoir au juste à quoi s'en tenir. »
Ma mère approuva de la tête.
« C'est ce qu'on peut faire de mieux. Il faut entendre les deux cloches. D'ailleurs, puisque Blum vient demain chez nous,
sais-tu quoi ? Laisse-moi faire. Je me charge de le questionner sans en avoir l'air. Ce n'est pas à moi qu'il fera avaler des mensonges, je t'en réponds. »
Mon père sourit d'un air convaincu et fit un signe d'assentiment. Il avait pleine confiance dans l'habileté et la circonspection de sa femme, ce qui ne l'empêcha pas, quand j'eus quitté la table du souper et qu'il me crut absorbé dans l'étude de mon catéchisme, de murmurer, comme en se parlant à lui-même, « C'est vexant tout de même qu'il faille en passer par cet estafier pour se faire nipper. » Ma mère eût certainement relevé le gant, si elle eût été présente, mais elle transportait la vaisselle à la cuisine, et ma tante Julie, qui avait entendu son beau-frère, se borna à le regarder en haussant les sourcils et les épaules d'un air d'impuissance. Moi aussi, cela me vexait qu'on employât malgré tout Maître Blum, et j'aurais renoncé de bon cœur à me voir, pour la première fois de ma vie, habillée de drap neuf, taillée à la mode du jour, tant la scène de brutalité dont j'avais été témoin m'avait révoltée. Aussi mes pensées vagabondaient bien loin de la matière traitée dans la 23e section du catéchisme d'Osterwald que j'étais censé apprendre. Tout en répétant machinalement « Qu'est-ce que la patience ?» La patience consiste à endurer les afflictions avec résignation, sans se laisser surmonter par la douleur ou par le chagrin. Je pensais « Mauvais gueux de Blum, va. Voilà qu'il me faudra encore brasser la neige demain pour aller lui dire de venir nous prendre mesure. Je voudrais, ma parole, qu'il en vienne un tas cette nuit, mais un tas à ne pas pouvoir passer outre les chez-eux. C'est le bon coin pour les mener. » Et je continuais à bourdonner d'un ton monotone. Pourquoi faut-il ainsi recevoir les afflictions? Parce qu'elles nous sont dispensées. Après tout, non. Je serais bien aise de voir la mine qu'il fait, Maître Blum, ce matin. Parce qu'en fin de compte, il ne doit pas savoir au monde ce qu'André est devenu. Je suis sûre qu'il avait compté le voir rentrer au bout d'un moment et qu'il aura cherché après lui de tous les côtés. Tant mieux. Ça lui vient bien. J'espère qu'il a une venette épouvantable qu'on aille trouver son apprenti gelé dans un coin. Rien d'étonnant si ce soir-là, les sages enseignements du catéchisme eurent grand-peine à se fixer dans ma mémoire, et si ma mère dut plus d'une fois m'avertir que je rêvassais au lieu d'apprendre. Ah ça, Charles-Auguste, toujours à creuser des sabots au lieu de te mettre tes réponses dans la tête. Tâche voir, une fois pour toutes, d'être à ce que tu fais, au lieu de ruminer on ne sait quoi.